Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Ce matin, nous revenons sur une étude très importante menée par Santé publique France et le Centre international de recherche sur le cancer et qui a rendu ses résultats. 4 cancers sur 10 pourraient être évités. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que 40% des cancers seraient évitables. Comment? Eh bien, en modifiant nos habitudes de vie, en évitant certains facteurs de risque importants comme le tabac, l'alcool, une mauvaise alimentation, le manque d'activité physique. On en parle ce matin avec nos invités sur le plateau de la radio africaine, déjà avec nous Emmanuel Ricarme de la Ligue contre le cancer. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On nous rejoint dans un instant au téléphone Mathilde Touvier. Elle est chercheuse à l'INSERM dans l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle. Elle a travaillé sur l'étude en 2018 sur l'alimentation ultra transformée dont on avait parlé ici, ultra transformée risque de développer un cancer. Elle nous rejoint dans un instant au téléphone. Donc, bonjour, merci de nous rejoindre, Emmanuel Ricard. D'après le rapport de Santé publique France, le tabagisme et l'alcool sont les deux causes principales de cancer en France. Selon les scientifiques, 41% des nouveaux cas de cancer pourraient être évités. Ces facteurs modifiables sont liés au mode de vie et à l'environnement de chacun. Il y en a plusieurs, mais les principaux sont le tabagisme, l'alcool et la mauvaise alimentation. C'est bien cela?
C'est cela auquel on peut rajouter l'activité physique, puisque plus on reste assis, plus on a moins de muscles et on fait plus de graisse. Et on sait que l'obésité et la graisse sont des facteurs favorisant la survenue de cancer.
Alors pour en revenir aux chiffres, comment arrive-t-on à obtenir ces chiffres? Comment sait-on que 4 cancers sur 10 pourraient être évités?
Alors, je pense que la collègue dont vous avez parlé va en parler de façon plus détaillée, mais on essaie de voir dans les facteurs qui sont connus ceux auxquels les gens peuvent rapporter des cancers. Donc on prend des gens qui ont un cancer, on regarde qu'est-ce qu'ils ont comme facteur de risque et on essaie de pondérer chacun des facteurs dans une attribution de risque. Et ça, on le sait avec d'autres études qui vont chercher à identifier un facteur en comparant des gens qui ont ou pas telles habitudes. Le tabac,
oui.
L'alcool,
oui.
On a parlé de ça, mais on aurait aussi des facteurs comme la pollution, des facteurs comme certaines professions. Et ça, après, on essaie de le rapporter à une population générale avec la répartition du nombre de personnes correspondantes aux différentes catégories.
Alors, lorsque l'on fait des projections dans les années à venir, 10 ans, 20 ans à venir, on a l'impression qu'on va avoir une recrudescence des cancers, de plus en plus de cancers. On a l'impression qu'il y a quelques années, il y avait un stade au niveau de l'âge. On avait l'impression que les cancers arrivaient à partir de 50 ans, 60 ans. Alors qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont 30 ans et qui peuvent être atteintes de cancer.
Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Plus la population va vieillir, plus elle a de risques d'attraper un cancer, puisque plus on vieillit, plus on a été exposé à des choses différentes, à différents facteurs, et plus on vieillit, plus on a un risque que notre immunité baisse. On a tous des cellules cancéreuses qui se baladent en nous, mais on a un système de défense qui les supprime. Et en vieillissant, ce système de défense, il devient moins efficace, ce qui fait qu'il y a plus de cancers qui surviennent avec l'âge. Après, par rapport à la population jeune, ce que vous soulignez, on a l'impression que les facteurs environnementaux sont en train de devenir des choses plus importantes qu'auparavant, et en particulier les polluants, les perturbateurs endocriniens,
oui.
Tout ça fait que l'environnement étant modifié, on ne s'est mis plutôt à des toxiques qui favorisent la survenue de cancer.
Alors d'après une étude, les cancers les plus fréquents chez la femme seraient celui du sein, suivi par le cancer du côlon rectum et du poumon pour les hommes. C'est le cancer de la prostate qui touche le plus d'hommes, puis le cancer du poumon et le cancer du côlon rectum. Qu'est-ce que ça dit cela?
Alors ça dit, pour les femmes, le cancer du sein, il y a des facteurs qui sont des changements de vie.
Ouais.
Autrefois, les femmes avaient beaucoup plus d'enfants. Et on sait que le fait d'allaiter, le fait d'avoir un grand nombre de grossesses, étaient des facteurs de protection pour le cancer du sein. Ça ne veut pas dire que il faut avoir plus d'enfants et allaiter. Mais on sait que ces facteurs-là sont des facteurs protecteurs. À partir du moment où il y a un choix de société qui est que les femmes travaillent, elles n'ont pas la possibilité d'allaiter, qui est que on réduit le nombre d'enfants parce qu'on a moins de place, parce qu'on c'est des choix de vie, ces facteurs de protection disparaissent. Et on ne les a pas remplacés par autre chose. Ça, c'est pour le cancer du sein chez la femme, par exemple.
Oui.
Après, il y a des facteurs qui sont, je dirais, vous parliez du côlon rectum, ça, c'est des facteurs qui sont clairement sur la diminution de l'activité physique. Autrefois, on avait des métiers où on bougeait beaucoup, on déplaçait des choses, voilà. Donc, on était musculairement beaucoup plus dotés.
Oui.
On était moins gras.
Oui.
Et ces facteurs-là sont des facteurs qui influent clairement sur, un, la survenue d'un cancer du côlon, deux, les récidives d'un cancer du côlon. Et après, vous avez cité, je crois, le poumon.
Oui.
Pour le poumon, là, clairement, c'est deux facteurs principaux, enfin trois, on va dire. Il y a les facteurs qui sont le tabac, c'est le premier.
Oui.
Ensuite arrivent des facteurs qui sont la pollution, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire les particules fines qu'on respire, soit parce que il y a de la pollution dans l'air par rapport à la circulation, mais aussi la pollution qu'on a à la maison.
Oui.
Et je pense par exemple...
Les produits d'entretien qu'on utilise.
Les produits d'entretien, mais aussi par exemple dans certains endroits, quand les gens fument de la viande, fument du poisson, et le font dans un environnement clos, donc ils se prennent plein de poussière, plein de fumée. Ou quand les femmes font la cuisine dans des lieux qui sont pareils, des cuisines fermées, avec du charbon, du bois, voilà. Et ça, c'est l'équivalent de ce qu'on a avec le tabac. Donc ça, c'est pour la pollution, pour le cancer du poumon, auquel on rajoute d'autres facteurs qui peuvent être des facteurs professionnels, comme l'utilisation d'amiante ou d'autres produits. Ça, c'est donc le troisième cancer dont vous parliez. Après, il y a les cancers de la prostate. Et là, c'est pareil. C'est l'obésité. C'est le fait que on pense qu'il y a des facteurs hormonaux.
Ouais.
Et en particulier, là, on revient sur l'utilisation des pesticides, des insecticides et des choses de genre.
Alors, Mathilde Touvier, on a parlé des conséquences du tabagisme et de l'alcool sur les cancers. Alors, la nutrition également, cancer évitable par la nutrition, qui constitue un des facteurs modifiables clés pour la prévention des cancers. Vous voulez nous en dire un petit mot ? Bonjour.
Oui, bonjour. Effectivement, donc c'est vrai que ça a commencé à être abordé. Parmi les facteurs clés, on a en effet un certain nombre de facteurs qui sont liés à la nutrition. Donc nutrition, c'est tout ce qu'on va manger. Donc c'est par exemple tout ce qui va être viande rouge et charcuterie. Hein. Vous parliez à l'instant du cancer colorectal. Donc ça, ce sont des facteurs à limiter pour prévenir le cancer colorectal. Hein. L'Institut international de lutte contre le cancer l'a vraiment spécifié comme facteur de risque. Il y a tout ce qui va être au contraire des facteurs protecteurs, comme par exemple les consommations de fibres alimentaires avec les aliments complets, les fruits et légumes également. Donc là, ça va être des facteurs plutôt protecteurs pour des différents cancers, des cancers des voies aérodigestives supérieures, cancer colorectal également. On va avoir des facteurs qui indirectement jouent sur le surpoids et l'obésité, comme ça a été mentionné, qui sont vraiment des facteurs de risque importants pour différents cancers, hein, colorectal, prostate, cancer du sein après la ménopause. Et donc là, l'idée, c'est effectivement de limiter les boissons sucrées, de limiter les produits riches en sucre, en acides gras saturés, par exemple. Donc il y a tout un ensemble comme ça de facteurs nutritionnels, soit protecteurs, soit délétères, sur lesquels on peut agir au niveau individuel pour permettre de prévenir un certain nombre de cancers via l'alimentation.
Alors on en parle avec des personnes rencontrées dans les rues de la capitale, au micro d'Emeric Kouassi. On les écoute et on se retrouve juste après.
Si je vous dis 4 cancers sur 10 peuvent être évités, comment vous comprenez ça ?
Les cancers, par exemple ceux du poumon, de la gorge, peuvent être évités si on arrête de fumer, si on fait de la prévention auprès des fumeurs, quant à la toxicité du tabac. Et je pense que la prévention, c'est super important, puisque ça peut éviter d'avoir de nouveaux fumeurs, en fait, par exemple, et ça peut éviter aux fumeurs d'aggraver leur cas, en fait, si on leur explique clairement ce qu'ils risquent en fumant, comme par exemple quand on a sur les paquets de tabac les images très réelles de cancer.
Je vais dire aux gens d'arrêter de fumer d'abord et après de faire attention de ce qu'ils consomment aussi, telles que la bouffe, certaines bouffes, il faut vraiment éviter, quoi, beaucoup même.
Ça suscite beaucoup de questionnements, surtout à partir du moment où on se dit, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on consomme, comment ça a été produit, cultivé. On se rend compte qu'il y a beaucoup de pesticides qui interviennent dans l'élaboration de beaucoup de produits alimentaires aujourd'hui. Et maintenant, on se dit, évitable, je pense non, c'est pas possible.
J'ai arrêté le tabac, la cigarette. Ça permettrait déjà d'éviter les risques du cancer, d'avoir des maladies cardiovasculaires et tout ce qui va avec. Le cancer du poumon. Après, je sais pas, ça attire quoi comme cancer. En tout cas, je sais juste qu'il y a les cancers du poumon et en général aussi, le cancer en général.
L'idée qu'on puisse éviter 4 cancers sur 10, pour moi, elle évoque deux choses. La première chose, c'est que d'une manière générale, je suis sûr qu'il y a de plus en plus de maladies liées à l'environnement, à l'utilisation de pesticides. Et si on s'alimentait mieux et qu'on utilisait moins de produits nocifs dans l'agriculture, c'est déjà un moyen de limiter les cancers. C'est sûr que de toute manière, d'une manière globale, tout ce qui est meilleure prise en compte de sa santé permet de limiter un certain nombre de maladies, en l'occurrence, là, très concrètement, en réduisant de manière drastique sa consommation de cigarettes. Un fumeur peut certainement éviter le cancer de l'œsophage, cancer de la gorge, ce type de cancer.
On voit quand même à travers ce micro-trottoir que contrairement à certaines maladies, le cancer est connu, hein, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde sait que ça peut arriver si on a une mauvaise hygiène de vie, c'était le cas du monsieur qui parlait du tabagisme. Le cancer, on sait ce que c'est aujourd'hui, c'est une réalité.
Je crois qu'il n'y a pas de famille où il n'y a pas une personne qui est atteinte de cancer. Donc c'est vrai que aujourd'hui les cancers, c'est puisque il y a différents types de cancers, les cancers c'est quasiment une chance sur deux d'en avoir un dans sa vie, et donc c'est quelque chose qui va être très important dans la vie des gens et dans leur entourage. Après, par rapport à ce qui a été dit, on voit que les gens ont un niveau de connaissance assez intéressant.
Oui.
Le à problème
quoi,
derrière,
c'est pour vous, c'est parce qu'on en parle beaucoup, les médias en parlent beaucoup.
On en parle beaucoup et puis c'est un sujet qui interpelle. C'est-à-dire que c'est comme toujours quand on a peur, quand on se dit tiens, c'est tombé juste à côté, on se dit pourquoi ? Et puis on se dit qu'est-ce qu'il a fait pour quoi ? On reprend par exemple la question du tabac.
Ouais.
C'est assez surprenant. Donc là, on a un changement qui s'opère, puisque la France était un des pays où il y avait une grosse consommation de tabac. On a un changement. Là, on a des gens qui s'arrêtent et ils commencent à comprendre que c'est plus intéressant de ne pas fumer que de fumer. D'autant que ça apporte pas grand-chose. Et quand on parle de pouvoir d'achat, c'est une bonne façon de récupérer du pouvoir d'achat.
C'est vrai que c'est un des arguments.
Voilà. Donc derrière ça, il se rend compte aussi qu'il y a des manipulations par des industries qui... Donc il y a la question aujourd'hui d'une forme, et ça a été dit, d'essayer de retourner vers des choses un peu plus naturelles, un peu plus...
Une responsabilisation
mais aussi essayer de reprendre un peu de pouvoir sur sa vie, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on mange. Voilà. Et là-dessus... Je pense que c'est à la fois dans l'air du temps en termes de société et sur les interrogations qu'on a sur ces maladies.
Mathilde Touvier, une petite réaction après le micro-trottoir ?
Oui, moi le point positif que j'y vois, c'est effectivement la très bonne connaissance du principal facteur de risque modifiable au niveau individuel, c'est-à-dire que le tabac effectivement a l'air bien connu et sur toutes les lèvres quand on pense à qu'est-ce qu'on peut faire individuellement pour prévenir certains cancers. Les facteurs nutritionnels sortent parfois, mais très peu de monde ont finalement en tête ces histoires de l'alimentation équilibrée, l'obésité, les viandes, etc., qui sont des facteurs qui commencent à être connus mais qui sortent moins. Ouais. Et ce que je n'ai pas entendu et qui doit vraiment être mentionné, c'est l'alcool aussi. Donc c'est vrai qu'en France, on a un pays qui culturellement et traditionnellement a de bons vins, etc. Donc on a, oui, certains patrimoines, aussi des lobbies très puissants là-dessus et qui ne contribuent pas vraiment à véhiculer le message que, à partir d'un verre d'alcool par jour quotidien, on a déjà une augmentation de risque de cancer du sein, de différents cancers. Et c'est clairement quelque chose qui peut être aussi un levier de prévention, cette diminution de la consommation d'alcool au quotidien.
Un mot aussi sur le fait que les chercheurs notent une différence de genre. Alors, risque de cancer attribuable au mode de vie et l'environnement concerne majoritairement les hommes, mais au vu de l'évolution de la consommation de tabac et d'alcool chez les femmes, on l'a vu ces dernières années, ce chiffre est porté à se modifier au cours des prochaines années. Un mot à ce sujet peut-être, Mathilde Touvier?
Alors, effectivement, jusqu'à présent, les femmes, par exemple, fumaient moins que les hommes et donc étaient protégées d'un certain nombre de cancers, hein, vu que c'est un des facteurs de risque majeurs. Mais après, pour tout ce qui a été cité, que ce soit la pollution, l'alimentation, le surpoids, les facteurs hormonaux, j'entendais que vous faisiez allusion à ça tout à l'heure, avec la baisse du nombre d'enfants, d'allaitement, etc. Oui. Tout ça, ça concerne évidemment aussi les femmes. Donc là, la prévention, c'est vraiment tout le monde qui doit être sensibilisé à ça.
Au téléphone, c'est Laura qui nous rejoint. Bonjour Laura, bienvenue, nous vous écoutons, allez-y.
Oui, bonjour.
Bonjour Laura.
Oui, je fume depuis l'âge de 16 ans et j'aurais voulu savoir quels symptômes devraient m'alerter en fait.
Emmanuel Ricard?
Ben, je ne sais pas, vous dites depuis l'âge de 16 ans, je ne sais pas votre âge, mais...
J'ai 33 ans.
Voilà, vous allez avec le tabac vous rendre compte que il y a peut-être un petit essoufflement qui va apparaître. Mais avant l'essoufflement, c'est le matin. Le matin, vous allez peut-être tousser, peut-être cracher.
Oui.
Et ça, c'est les premiers signes que votre poumon, il est en train de subir des dégâts importants. Le cancer, en général, il se met sur un poumon qui a déjà été bien intoxiqué, puisque le poumon, c'est une surface pour respirer. Et il attrape tout ce qui passe dans l'air, quoi. Et là, avec le tabac, vous lui mettez plein de polluants. Donc, c'est les premiers signes, c'est ça. C'est le fait de tousser. C'est le fait d'être plus sensible aux infections qui passent.
Oui.
Voilà.
Oui.
Donc, la grippe, de temps en temps, une bronchite, voilà. Tout ça, ça va s'enchaîner.
Tout ce qui est
autour
de l'ORL, en fait.
Et après, voilà. Après, mais comme elle me parlait du poumon, je restais
d'accord,
sur le poumon.
Excusez-moi.
Après, on remonte. Et puis, il y a tout ce qui est la sphère ORL. Et puis, si vous avez des enfants, vous allez voir que ça se répercute aussi chez les bébés qui vont faire plus de bronchiolite. Donc, ces infections respiratoires pour lesquelles il faut faire de la kinésithérapie pour qu'ils crachent, quoi. Et puis, toutes les otites, les rhinites, tout ça. Donc, ça envahit complètement la sphère domestique. Et c'est pour ça qu'on conseille, quand les gens fument, de fumer dehors pour pas que les enfants soient intoxiqués, de fumer avec toujours le même vêtement, parce que vous ramenez les odeurs et les poussières avec le vêtement, si vous avez un bébé, voilà.
Ouais.
Tout ça, c'est des choses à faire et à faire. Mais le mieux, on vient de passer le mois de novembre, c'est régulièrement penser s'arrêter, et plus vous allez faire de tentatives, plus vous allez vous rapprocher de...
Est-ce que vous avez déjà tenté l'arrêt, Laura?
J'ai déjà tenté, mais malheureusement, je suis accro.
Oui, mais faites-vous aider. Et quand une bonne façon de savoir si vous êtes vraiment accro à la nicotine, il y a trois types d'accroches. Hein.
La première cigarette?
Il y a celle qui est physique.
Oui.
Et ça, vous le voyez le matin sur le temps que vous mettez à sortir la première cigarette. Si vous sortez votre cigarette dans la demi-heure qui suit votre réveil, ça veut dire que vous avez une vraie dépendance physique à la nicotine. Après, les deux autres dépendances, c'est la dépendance psychologique. C'est-à-dire que quand vous avez l'impression d'être stressé, quand vous embêtez, vous sortez la cigarette.
C'est vrai.
Et puis après, il y a la troisième qui est situationnelle. C'est vous êtes avec des copains, vous êtes dans une fête, vous pouvez pas faire autrement que sortir la cigarette parce que vous avez l'impression qu'il manque quelque chose. Et ça, faites-vous aider pour dissocier ces trois-là. Ces trois dépendances, parce que en fait, la cigarette, c'est un conditionnement. Les médicaments, ils vont vous aider à vous sortir de la dépendance
surtout
physique.
Surtout que c'est mieux remboursé.
Voilà, maintenant c'est 65% remboursé, et on a un vrai soutien là-dessus, surtout si c'est prescrit par un médecin, un infirmier, une sage-femme. Voilà, on a élargi le cadre.
D'accord. Ben, merci beaucoup pour tout.
Merci. N'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant la prochaine fois que vous le verrez.
Pas de souci.
Merci pour votre appel, en tout cas, Laura.
Au revoir.
À très bientôt. Merci beaucoup. Et puis, il faut aussi lutter contre plein de fausses croyances autour des cancers. Il y en a plein. Par exemple, 2/3 des Français pensent que la pollution provoque plus de cancers que l'alcool.
Ben non, c'est ce que disait la collègue tout à l'heure, on n'y pense pas à l'alcool. Et l'alcool, il a en fait deux effets pervers. D'abord, il est toxique par lui-même. C'est-à-dire que vous mettez de l'alcool sur des cellules, c'est toxique pour les cellules. Et ensuite, l'alcool, on le transforme en sucre. C'est-à-dire qu'on le transforme en calories, et ces calories, on les stocke. Et les Allemands, ils appellent ça, et quand on va en Afrique, on connaît bien ça, on appelle ça le ventre de bière. C'est la petite bedaine, là, qui se forme à force de boire. Voilà. Et ça, ça fait le lit du cancer, parce que c'est pas de la bonne graisse.
D'accord.
Voilà.
Un mot, Mathilde Touvier?
Ah oui, sur l'alcool, je ne peux que rejoindre effectivement cette analyse-là, hein, l'effet direct avec l'éthanol qui en soi est une molécule reconnue cancérigène, l'acétaldéhyde qui est dans les boissons alcoolisées et qui est formé aussi, métabolisé par notre organisme à partir de l'éthanol. Donc ça, c'est les effets directs. Et effectivement, voilà, comme ça a été dit, l'effet calorie qui contribue au surpoids, en plus avec des graisses abdominales qui, en effet, sont des facteurs de risque de cancer. Donc c'est tout à fait vraiment à rappeler. Et puis, moi, je le vois souvent dans les interventions que j'ai l'occasion de faire. Oui. Les gens pensent que l'alcool c'est dangereux si on est alcoolique par rapport au cancer. Voilà, donc ils pensent que c'est si on en prend 3-4 verres, qu'on est ivre régulièrement, etc. Mais non, là ce qui a été montré avec vraiment beaucoup d'études épidémiologiques très robustes, c'est que voilà, c'est la consommation régulière à partir d'un verre par jour qui fait l'augmentation de risque pour plusieurs localisations de cancer.
Alors comment on pourrait conclure à cette émission? D'abord, je vais vous laisser dire un dernier mot, Mathilde Touvier. C'est quoi les recommandations? C'est quoi le bilan de l'émission? Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer?
Alors, plusieurs choses. En fait, sur l'aspect prévention, par les facteurs nutritionnels, il y a vraiment une idée qui est suivre les recommandations du Programme National Nutrition Santé. Les au moins 5 fruits et légumes par jour, manger des légumineuses 2 fois par semaine, limiter la viande rouge, etc. Tout ça, ça va permettre de réduire les risques de cancer, mais aussi d'autres maladies chroniques, hein, maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, etc. Pour nous aider là-dessus, il y a aussi le Nutri-Score, qui est le logo à 5 couleurs, qui maintenant est passé officiellement en France et qui va apparaître de plus en plus sur les emballages, qui permet de donner une idée de la qualité nutritionnelle des aliments. Donc là, ça peut nous aider dans nos choix au quotidien. Ouais. Et puis, voilà, la recherche continue, nous, pour essayer d'identifier d'autres facteurs de risque nutritionnel. On a des travaux sur les aliments ultra-transformés qui suggéreraient des risques plus élevés de cancer. On s'intéresse dans l'étude NutriNet Santé aux additifs alimentaires. Donc, on aura des réponses à apporter aussi aux citoyens dans les années futures. Et en attendant, voilà, Nutri-Score et Programme National Nutrition Santé, recommandations nutritionnelles.
Merci beaucoup, Mathilde Touvier. Emmanuel Ricard, une petite conclusion?
Ben, pour compléter, je reviendrai sur l'alcool. Le moins est toujours le mieux. Donc, diminuer sa consommation, c'est toujours bien. Ce d'autant que, on l'a dit, il n'y a pas de niveau, en fait. Quand on fait la courbe du risque avec l'alcool, c'est une courbe qui n'a pas de seuil. C'est-à-dire que elle est en pente douce et elle monte avec la consommation. Le risque monte vraiment avec la consommation. Donc, la question, c'est de quel verre on peut se passer. Et après, si on peut le faire, essayer de pas boire les cocktails, c'est-à-dire de rajouter du sucre en plus de l'alcool.
D'accord.
Et ça, en particulier chez les jeunes, avec les prémix et les choses comme ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Après, j'irai chez les plus jeunes. Donc, ne jamais inciter un enfant, un mineur, à boire.
Ni à fumer.
Et pour les tout-petits, essayez, s'il vous plaît, de pas leur donner systématiquement des sodas. Parce que les sodas, c'est la graisse, puisque le sucre se transforme en graisse. Et ça, on voit de plus en plus, on a l'impression qu'on fait plaisir, mais alterner, donner de l'eau, donner des sirops, hein, mais surtout, arrêter de faire systématiquement les sodas au moment où les enfants mangent.
Merci à tous les deux. Merci beaucoup Emmanuel Ricard, www.ligue-cancer.net pour en savoir un petit peu plus. La ligne téléphonique de la Ligue contre le cancer, c'est une ligne d'écoute, d'aide et de soutien. C'est au 0800 940 939, 0800 940 939. L'émission sera disponible en téléchargement dans quelques minutes sur les réseaux de la Radio Africaine. Merci à tous les deux. À très bientôt. Il est 9h54 sur la Radio Africaine.